Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Théâtre de l'Alliance Française pour Un masque et la plume consacré à l'actualité cinéma avec Eva Bétan de France Inter, Pierrot Pierre Murat de Télérama, Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et d'une heure en série qui reprend, Dieu merci, à la fin du mois d'août. Et enfin Michel Simon, le grand prêtre de la critique de cinéma et de la revue Positif. On parle ce soir de films qui étaient à Cannes, Benedetta de Paul Verhoeven, Annette de Léos Carax, Bergman Island de Mia Hansen-Love, mais aussi des présidents d'Anne Fontaine, de Désigné coupable, de Kevin MacDonald et du procès de l'herboriste d'Agnieszka Holland. Dans le courrier, à propos d'un film dont on parlait au mois de juin, qui est Des Hommes de Lucas Bellevaux et que j'avais été le seul à défendre au masque et la plume, les auditeurs sont divisés. Bruno Gouriou de Brest juge que ce film est un naufrage pour les trois vieux acteurs du film, Depardieu, Daroussin, Catherine Froh. En revanche, bravo aux jeunes actrices et acteurs qui auraient dû être sur l'affiche, car eux jouent la comédie. Pierre Cusor, le gros souci de ce film est celui de l'adaptation du roman de Laurent Mauvignier. Bellevaux n'ose pas prendre de liberté avec son sujet et sa source littéraire. Au contraire, Claude Duclès, qui habite Agde, nous écrit « Je fais partie du million d'appelés envoyés en Algérie par le soi-disant socialiste Guy Mollet et je trouve ce film très juste. Et pour Bertrand Marie, le film de Bellevaux dégage une impression de puissance assez dévastatrice en se coltinant le roman de front sans chercher à éviter la littérature. Je suis en revanche plus partagé sur les flashbacks algériens qui m'ont semblé un peu clichetonneux. Quant à Depardieu, seul Jérôme semble avoir été comme moi sidéré par sa performance. C'est Harry Bore, c'est Jean Gabin. Jamais il n'avait été regardé, tais-toi Pierre, comme cela par un metteur en scène. Pour Fabrice Delabarre, ce film est important car cette guerre reste un sujet tabou en France. Film dur mais rare, nécessaire et donnant enfin la parole à des anciens combattants qui n'ont jamais osé la prendre. À propos de petite maman de Céline Sciamma, Marianne Lacroix, qui est maman, n'est pas contente. Ma fille de 12 ans et moi avons été voir Petite Maman, film froid, décevant, aucune émotion. J'ai du mal à comprendre, ajoute Isabelle Desrois, comment un si petit film obtient une presse si dithyrambique et fait se pâmer certains de vos critiques. Benoît Amiel de Paris nous écrit, accompagné de 4 copines de ma fille qui fêtait ses 12 ans, j'ai vu Petite Maman, bonjour le cadeau. Il n'y a pas de cinéma dans ce vide absolu, aucune idée. La photo est inexistante, les acteurs sont mauvais, bref, tout respire la laideur. Merci à Pierre et Nicolas pour leur franchise. Pierre Murat et Nicolas Chalère pour leur franchise. Sophie Avon devait avoir abusé de ses BD avant son visionnage. Au contraire, Juliette Béguet, étudiante de 21 ans, juge que Céline Sciamma réussit quelque chose de rare. Elle fait confiance à la puissance des images. Le voyage avec cette cinéaste dans le temps devient le lieu d'une consolation et d'une réparation. Voilà, aussi bien sur Bellevaux que sur Sciamma, les auditrices et auditeurs sont partagés. Allez, on n'avait plus de nouvelles de lui depuis presque 10 ans et son Holly Motors. Et voici Léos Carax de retour avec Annette, film musical en anglais de 2h20 inspiré par le groupe Sparks, qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes avec, vous le savez, Marion Cotillard et Adam Driver. Henry McHenry, c'est Adam Driver, qui est comédien catégorie comique de stand-up, au succès décroissant. Anne de Franou, Marion Cotillard, cantatrice de renommée internationale. Ils sont célèbres, glamour. Et ils s'aiment à Los Angeles, mais la naissance de leur premier enfant, Annette, venue d'un autre monde, je crois qu'on ne révélera pas le secret, même si le film est sorti depuis quelques semaines, bientôt promise à devenir à 4 ans une diva du bel canto, va bouleverser la vie du couple. Ça chante d'ailleurs beaucoup dans ce film au long texte en voix off, et où, je le disais, les dialogues sont portés de bout en bout par la BO des Sparks. Michel, qu'en penses-tu ?
J'ai jamais été vraiment passionné par Léos Carax, que je trouve un décorateur très talentueux, genre vitrine de grands magasins, avec un flair visuel incontestable.
Tu veux dire genre Samaritaine, voilà, New Look.
Mais en même temps, sans grand contenu. C'est-à-dire, moi j'aime bien les films où la forme et le fond sont à leur plus haut niveau. Chez lui, tout est soigné dans
la forme est soignée dans ce film.
Voilà, absolument. Et je trouve que c'est son meilleur film pour deux raisons. D'abord, pour la première fois, il n'écrit pas le scénario, donc c'est un scénario fait par quelqu'un d'autre, et véritablement, il se tient, c'est-à-dire il y a une vraie histoire de ce coup, de cet enfant, etc. Et deuxièmement, il y a la musique des Sparks, qui est une très jolie musique. Dès le début, So May We Start, la chanson qui ouvre le film, m'a mis dans l'ambiance. Ensuite, j'ai toujours un peu des réserves, c'est-à-dire que c'est vrai que Léos Carax a fait 6 films en 37 ans, c'est un cinéaste rare, donne très peu d'interviews, il a changé de nom, il s'appelait Alex Dupont. Léos Carax, évidemment, est plus mystérieux, plus littéraire, plus inquiétant, etc. Donc, dans ce film, je me suis un peu senti un peu perdu malgré cette trame qui existe.
Le film est long, hein, 2h20.
Il fait 2h20. Alors, c'est le côté musical qui m'a plu. Je trouve qu'il y a un effort tout de même de communication. Je sais qu'il y a un culte Carax en France, c'est un génie, c'est notre Orson Welles.
Et en même temps, il est très clivant.
Il est très clivant, absolument, mais d'un côté, il est très coté par les gens qui veulent être vraiment dans le coup, quoi. Donc, je serais plutôt, moi, mitigé avec une relative sympathie pour le film.
Donc, en gros, tu es déçu en bien.
Déçu en bien, exactement.
Eva.
Moi, je ne suis pas déçu en bien. Je suis très contente d'être dans ce film. Je suis là et je suis contente d'être là. Il y a du cinéma. À tout moment, il y a l'amour du cinéma qui passe. Il y a du cinoche. Il y a des archétypes. La grande histoire d'amour qui va être condamnée, comme dans Funny Girl, elle est plus célèbre que son mari, donc ça augure de la perte. Un enfant qui devrait être la concrétisation, comme on dit dans les romans photos, du bonheur qui est aimé, mais qui peut être une source de, un déclencheur, en tout cas de fiction assez singulier. La manière d'entrer dans le film, on est sur une scène de théâtre, et puis il nous dit « Are you ready ? Vous êtes prêts ? Maintenant vous respirez pas, vous venez avec moi », et ils descendent dans la rue. Je dis pas que c'est la première fois qu'il y a cette idée de nous emmener dans la fiction, de nous dire « Venez avec moi ». Mais il nous emmène et je suis ravie d'être emmenée. Il a quel âge maintenant ? Il doit avoir 55 ans, Carax ? Je sais pas.
60 ans.
Eh bien, il est à l'âge où on se dit peut-être que les enfants jugent les artistes. Peut-être qu'ils vous disent « Vous êtes peut-être un grand artiste, mais vous êtes un salaud comme père et comme mère ». Donc, c'est aussi là, peut-être. Et puis, il y a cette idée qu'on peut dire les choses de manière plus belle dans le cinéma que dans la vie. Il y a tout ça qui passe, et pour ça, ça vaut le ticket de sans problème.
Pierre ?
Mais moi non plus, je ne suis pas un fan absolu de Carax, mais là, je suis enthousiasmé. Je trouve ce film magnifique. Je trouve ça splendide. Je trouve qu'il y a du cinéma partout. Ouais. Il y a une idée par plan, et ça peut être pénible quelquefois. Et ça peut l'être, parce que c'est vrai que Carax n'est pas un modeste. Il a du talent, il le sait, il le montre, il le fait voir. Mais on s'en fout tellement c'est bien. Moi, ça fait longtemps que j'avais pas vibré à une comédie musicale comme ça. C'est pour moi l'alliance absolument parfaite entre Bob Fosse. C'est pas seulement parce qu'il filme comme Bob Fosse avait filmé Lenny Bruce, et là il filme un mec de stand-up, mais c'est pas ça, c'est plutôt le Bob Fosse de All That Jazz, de Que le spectacle commence, avec la mort qui est partout. Que le spectacle commence est la seule comédie musicale absolument splendide qui s'affronte à la mort. Ben voilà une autre, donc il y a l'influence de Bob Fosse. Et après, lorsque le mélo se déploie, c'est Murnau, de l'aurore, avec des éclairages absolument sublimes. Donc c'est à la fois une comédie musicale, c'est à la fois un hommage au cinéma. Alors la seule petite faiblesse, et je ne peux pas en parler plus parce que c'est la toute fin. Non, mais c'est-à-dire que ce que tu disais, Eva, moi, m'ennuie un peu le côté moralisateur qu'il donne à la fin.
Pour moi, mais finir avec une claque, oui, c'est pas
mal.
Mais
non, moi, je trouve ça pas bien à la toute fin. Mais c'est le film qu'il faut voir. C'est un film absolument sublime.
Xavier.
Moi, j'adore ça. J'adore le début, je suis d'accord avec vous. On entre là-dedans, on est pris par la main, on est emporté par le mouvement comme ça global. Des comédiens, des chanteurs, des musiciens, du metteur en scène, des gens de la rue, du cœur qui vont nous accompagner. Et puis il faut rentrer dans la fiction, donc chacun des comédiens va revêtir le vêtement qui va le caractériser, va monter sur la moto qui va être un élément clé de ce personnage-là. Et jusqu'au bout, comme dans Polaïque bien sûr, Voilà, ça pourrait être le seul petit bémol. Je trouve que Carax se répète un tout petit peu.
Oui, on joue ceci, au jeu des citations. Les voilà. Machins, d'accord, mais c'est secondaire.
Bon, mais en même
ça,
temps,
ça n'a aucune importance.
Non, mais en même temps, voilà, on est bien d'accord, c'est son principe. Cette ouverture, c'est quand même très Holy Motors.
Oui.
Quand Denis Lavant était dans, dans l'église.
Oui, bien sûr.
Oui.
Et jusqu'au bout, il construit une bulle d'émotion.
Oui,
vraiment quelque ça, chose qui explose, mais qui explose au bon sens du terme, de la toute dernière scène, qui, moi, m'a fait monter les larmes aux yeux. Je la trouve bouleversante. Et c'est un metteur en scène de cinéma qui joue avec les artifices du théâtre et de l'opéra, avec une intelligence que je trouve magistrale, avec effectivement des conventions, des artifices sur scène, des changements à vue de décor qui, moi, m'esbaudissent, parce que je trouve que la magie...
C'est décidé, quoi.
Mais voilà,
tout le temps, la magie
du théâtre, du cinéma, c'est quand on voit les coulisses, quand on voit comment c'est fait.
Et que ça marche quand même.
Et que ça marche quand même.
Que l'on ne sorte pas de la fiction. Le risque des coulisses, c'est qu'on dit « Ah, tu es en train de me gâcher mon plaisir. » Alors là, c'est pas le cas.
Voilà, c'est l'apanage des grands metteurs en scène de théâtre, c'est
de
nous montrer les coulisses et en même temps de réinventer la magie.
Les acteurs sont superbes.
Pour dire un mot de la mise en scène, il y a une scène où Adam Driver pète les plombs sur scène.
Mm.
Ça prouve que c'est un acteur de génie.
Oui,
je pense qu'on
n'a
pas un acteur aussi puissant que cela aujourd'hui dans le monde entier. Et la mise en scène et le découpage, les perspectives, les obliques de Carax, c'est une immense leçon de cinéma où il abandonne son personnage à la folie tout en le tenant comme ça juste à distance et par la main. C'est remarquable. Cotillard, eh bien, elle est plus scolaire.
Annette de Léos Carax.
Elle est bien scolaire.
Il était également à Cannes et il est sorti dans les salles le 9 juillet. C'est Benedetta de Paul Verhoeven, un film adapté du livre de Judith Brown, Sœur Benedetta, entre sainte et lesbienne. Le cinéaste, en effet, de Basic Instinct et de Elle nous plonge dans l'Italie du XVIIe siècle où sévissent la peste et la contre-réforme. Elle est la fille d'une famille aisée, donc la toute jeune Benedetta, c'est Virginie Efira, entre au couvent de Peccia en Toscane sous l'autorité de l'abbesse Felicita, qui est très bien jouée par Charlotte Rampling. On a un peu peur d'elle. Très vite, le comportement de Benedetta intrigue puisqu'elle prétend voir de ses yeux voir son époux Jésus-Christ, d'ailleurs nous aussi, puisque Verhoeven le filme dans des scènes kitschissimes, et elle porte aux pieds et aux mains les stigmates sanglants du Christ, tout en vivant une histoire d'amour torride avec une novice belle comme le jour, Bartolomea, qui est jouée par Daphné Patacchia. Alors, est-ce qu'elle est une sainte ou une manipulatrice, cette Benedetta? Est-ce qu'elle va être béatifiée ou brûlée vive sur le bûcher? Évidemment, je vous le dirai pas, mais sachez que dans son énième rôle de prélat, qui se termine mal, le nonce Lambert Wilson, il ne joue plus que les prélats maintenant, vous avez remarqué, à la vie de Benedetta entre ses mains gantées, film de 2h06. Pierre?
Ah ben je vais continuer dans la nuance. C'est le film le plus grotesque que j'ai vu depuis des années. C'est nul. Mais c'est nullissime.
Mais tu trouves pas un peu exagéré, non?
Non, c'est pas exagéré. C'est autant je suis dithyrambique sur le Carax. Ah oui, non, mais.
Je caricaturais moi-même.
Je trouve ça grotesque.
Grotesque
au dernier
degré.
Ben, tout est ridicule. La mise en scène, l'histoire, la façon dont il filme, ça oscille entre Don Camillo, en gros pour moi, avec la voix de Jésus qui parle. Don Camillo et l'exorciste quand elle change de voix. Mais c'est grotesque.
Parce qu'il faut expliquer que dans le film, que quand tout d'un coup elle est Jésus, elle a la voix grave d'un homme.
Oui, enfin, c'est Linda Blair dans l'exorciste.
Et qu'elle fait un usage très peu orthodoxe de la statue de la Vierge, du crucifix.
Oui, et Fernandel dans Don Camillo. Non, mais c'est quand je pense au personnage de Charlotte Rampling, qui doute, c'est formidable, ce personnage, quand il avait été traité par Bernanos au Poulenc dans le dialogue des Carmélites. Là, ce qu'elle... je suis désolé, quand on parle de la religion et de la foi, on peut faire des comparaisons. Quand on ne connaît rien au sujet qu'on traite, comme Verhoeven, eh ben on la boucle, on fait autre chose. On fait des petits films Starship Troopers, etc., qui sont bien, pas bien, où elle, à la limite...
Il avait envie depuis très longtemps de faire un film
Il a tort.
Sur le catholicisme.
Je suis désolé,
et sur le Christ,
c'est absolu. Quand on pense à Charlotte Rampling, elle est ridicule dans Lambert Wilson et grotesque.
Ah oui.
Non mais c'est tout ça est absolument nul.
Xavier.
Bon, je vais essayer de faire pousser quelque chose sur ce terrain quand même bien ravagé par Pierre Murat. C'est complètement pour moi. Mais déjà, sur le papier, ça l'était. Hein,
ben oui, j'ai pensé à toi.
Quand même 2 ans que je salivais à l'avance de voir Virginie.
Pourquoi c'est parce qu'il n'y a pas Mylène Farmer dans le...
Alors, on y reviendra. C'est un film effroyablement, terriblement, magnifiquement, sublimement Mylène Farmerien. À plein de points de vue. Comme l'était Annette, d'ailleurs, précédemment. Mais bon, évidemment...
Tu vois Mylène Farmer partout, toi.
Parce qu'elle est partout, parce qu'elle a tout ramassé, parce qu'elle a tout inventé. Voilà. Sujet suivant. Benedetta. Alors, d'abord, tu as... À mon avis, pas raison, pour ne pas dire que tu as tort, mais je voudrais te ménager un tout petit peu.
Oh, ménage pas, je suis habitué.
Le sujet du catholicisme et de sa trivialité, c'est le cinéma de Verhoeven depuis le début. Revois le quatrième homme, revois...
Ah ben, j'ai revu, mais je l'ai vu.
C'est quand même son sujet.
Ben, c'est pas parce que c'est son sujet, c'est mauvais. Il le traite mal.
Non, mais tu dis qu'il n'y connaît rien.
Là. Ben, il n'y connaît rien, oui.
Je sais pas ce qu'il faut, mais il voit un bac plus 3 en théologie.
Eh ben oui, un petit peu.
Peut-être,
rappelle que l'histoire est vraie, hein. Le livre, quand il s'est inspiré.
Je peux rien dire, j'en ai marre, tu sais, des films. Des histoires vraies qui donnent des bonnes
histoires. Je croyais que c'était mon temps de parole. Mais pardon, mais peut-être que Jésus parle avec la voix de Pierre Murat. Je ne sais pas.
Ben, je ne sais pas. En tout cas, pas.
Ça me fait penser à ces bas-reliefs qui sont sur les portes des cathédrales où il y a des statues de saints qui cohabitent à côté de satyres qui ont des phallus démesurés. Et au Moyen-Âge, ça ne posait aucun problème. Comme si le trivial et le sacré, comme si le païen, l'hypersexué, devait avoir quelque chose à voir, intimement lié.
C'est pas ça qui me gêne. C'est ridicule, là. Moi, je veux bien que ça soit ça.
Je comprends mieux l'Inquisition maintenant. Eh ben, alors, voilà, donc Pierre Murat va remettre ta robe de bure. Je trouve qu'il y a une séquence au début, il y a une foire sur une place publique, Benedetta arrive et il y a un pétomane qui fait fuir les squelettes. Et je trouve que le film est là. C'est une farce qui assume son grotesque, qui est brillante en termes de mise en scène et d'inventivité.
Tu as raison, mais Xavier, en même temps, si on parle de l'histoire proprement dite, il y a une réussite, c'est qu'on ne sait pas à la fin.
Mais c'est ça qui est réussi. Mais voilà.
Si elle,
j'allais y venir.
Mais si elle est dans l'imposture ou dans la vérité.
Voilà.
Non, mais c'était pour aller dans ton sens.
Je vais aller faire ma première communion. C'est-à-dire que, évidemment, pour préserver ce mystère qui est, était-elle une sainte, n'était-elle pas une sainte, on ne va pas révéler la fin, évidemment, aux auditrices et aux auditeurs, il fallait travailler les deux. Oui, on peut être lesbienne et non, on peut être lesbienne et croyante, on peut être appelée par Dieu tout en s'enfonçant la Vierge Marie dans le vagin. Voilà, je trouve que c'est extrêmement... Ben non, mais on le sait, de toute façon.
Tu racontes une des scènes du...
Non, du Pierre Murat, là.
Oh, j'ai rien dit sur la merde, j'ai rien dit sur la saumon, j'ai rien dit sur les latrines.
Ah ben, on peut aussi continuer.
Et je trouve que Verhoeven tient remarquablement à la fois son scénario, l'emphase de sa mise en scène, c'est brillant ici, et puis... Virginie et Fira, quoi.
Oui, parce que ça, on n'en parle pas.
Alors, moi, je me convertis à n'importe quelle religion, si Virginie
elle est pas très bonne.
Moi aussi. L'égérie, elle est extraordinaire.
Elle est pas très bonne, la pauvre.
Toi, je vais me venger au prochain débat.
La petite Daphne Patakia qui est très...
Parce que tu en serais capable de te venger.
Allez, Eva.
Alors.
Il y en a d'autres films ce soir.
Oui. On se demande si c'est du lard ou du cochon en permanence.
Mais
mais c'est ça que j'aime. Vraiment, je dis, mais ça, c'est ridicule. Mais ça... Oui, mais c'est justement ça que j'aime.
Les scènes d'apparition de Jésus, c'est l'ironie. Kitsch, hein.
C'est ce côté ironique. Il y a une sorte de dérision et d'ironie permanente. Il filme un couvent comme une micro-société. Il y a une pauvre fille qui veut entrer au couvent. Tu n'as pas de quoi payer la dot. Va-t'en. Il n'y a aucune charité. Il n'y a pas Dieu, d'ailleurs, dans ce film. Il y a des sœurs qui sont entrées dans le couvent parce que ça se faisait à l'époque d'entrer dans le couvent. C'est une micro-société. Et on se demande même en permanence aussi, quelle est la perversion de la mère supérieure qui, alors qu'on sait que le personnage joué Benedetta, elle est amoureuse, on va dire, d'une jeune sœur, je ne sais pas comment elle appelle ça, qui vient d'arriver.
Une novice.
Eh bien, on les met dans la même chambre. Et ce que je trouve génial, c'est que quand elle a du pouvoir, Benedetta, elles vivent ensemble. Mais au milieu du couvent, ça ne gêne personne.
Non,
ça
elles ne vivent ensemble que quand elle devient la...
Oui, c'est ce que je veux dire, quand elle devient la mère supérieure.
La mère du...
Oui.
Mais les prêtres se mariaient entre eux à l'époque.
On est au 17e,
oui,
je rappelle.
Oui, mais à l'époque, elle installe son pouvoir. Elle demande d'autorisation à personne. Tu vas vivre là. Donc, il y a quelque chose. Et est-ce qu'elle est une sainte? Est-ce qu'elle ne l'est pas? D'une certaine manière, elle invente le confinement. Il y a la peste partout. Elle dit, on ferme les portes. Donc, voilà, c'est un chef d'État européen qui ferme ses frontières. Et moi, ce que j'aime, c'est la dérision. Et c'est la dérision, elle est dans beaucoup de ses films. Puis surtout, le pouvoir libérateur de la sexualité. Elle a des doutes, elle veut se punir auparavant quand elle veut pas admettre son penchant pour la fille. Mais à partir du moment où elle cède à son désir, elle est même plus effrontée, je dirais, que l'autre jeune fille qui pourtant a vécu avant elle. Donc il y a toutes ces choses-là que moi, je trouve très intéressantes. Et tout en étant bancale, et pour un moment, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?
Michel.
Jérôme, tu as employé le mot « kitsch ». Je pense que c'est vraiment la définition de ce film. Alors évidemment, à côté de Carax, je préfère mille fois Carax. Du coup, j'ai plus envie de faire des réserves, parce que d'abord, le film est d'une grande laideur.
Pas les... ni Virginie et Fira.
Non, je parle de la reconstitution de l'époque, ah oui, de la photographie, aussi, etc. Bien sûr, Virginie et Fira est très belle, c'est pas le problème. J'ai trouvé le film, par exemple, le Godemiché, qui est un corps du Christ qui sert de Godemiché, ça m'a pas fait vraiment rire. Rendez-nous Buñuel pour la subtilité, la complexité, le dépouillement.
Pas fait pour faire rire.
Il s'agit tout de même d'un film qui manque. Alors, je ne sais pas pourquoi Verhoeven est devenu maintenant lui aussi, alors que tous ses films sortaient sans enthousiasme particulier. Maintenant, il est quasiment un des grands cinéastes du dernier demi-siècle. On récupère tous les films qu'il a fait. Je trouve ça complètement surfait. J'avais bien aimé Elle, mais là, je ne suis pas très bien. Je comprends pas l'enthousiasme, encore une fois, de certains d'entre nous. J'ai trouvé le film extrêmement décevant, déplaisant, vulgaire, avec une surenchère. Alors, Ken Russell faisait tout de même mieux, oui. Il y a 25 ans.
Si.
Il y avait au moins un délire visuel qui était réel. Alors moi, je ne suis pas un amateur de Ken Russell, mais au moins, il y avait un culot formel.
Je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais il détonne dans la période actuelle.
C'est plus les années 70
et leurs outrances.
On a réalisé Ken Russell pour défoncer Benedetta. C'est
moi, j'aime bien Ken Russell. Malheur, c'est très bien. Le diable aussi.
Je suis fanatique de Ken Russell, mais Ken Russell avait l'audace, avait une vraie audace formelle qu'on pouvait ne pas aimer comme moi, qui existait vraiment.
Non. Allez, la messe est dite, si j'ose dire. Benedetta, Paul Verhoeven. Allez, on accélère un peu avec Bergman Island, le film de Me and Some Love, sorti le 14 juillet, qui a offert d'ailleurs à la jeune réalisatrice sa troisième sélection au festival, mais cette fois-ci en compétition officielle. Histoire d'un couple de cinéastes, incarné par Vicky Krieps et Tim Ross, qui s'installe pour écrire Le temps d'un été sur l'île suédoise et bien sûr mythique, pour ne pas dire plus, de Faro sur la mer Baltique où vécut et tourna Ingmar Bergman et où le fantastique road de Bergman Island a expliqué Me and Some Love à notre ami Laura Adler sur France Inter. Et peut-être le premier de mes films qui s'est écrit tout seul, sans la souffrance à laquelle j'associe le processus de l'écriture, j'ai eu le sentiment que s'ouvraient des portes qui étaient restées fermées jusque-là, et c'était l'île qui le permettait, avec aussi d'ailleurs Mia Wasikowska et Anders Danielsson. Lee, Eva.
Oui. Eh bien,
oui, bonsoir Eva.
Bonjour, vous allez bien. Un peu comme dans Annette, le film vous amène dans un spectacle qui se joue dedans, puisque c'est un couple qui vient là pour écrire, et donc nous allons voir des scènes du film que l'épouse est en train d'écrire.
Absolument.
Et il se passe, alors je ne sais pas si c'est une réussite ou un échec pour Me and Some Love, mais le film qu'elle écrit, les scènes qu'on voit sont beaucoup plus intéressantes que la vie de son couple de cinéastes, qui sont l'un dans la maison principale, l'autre dans l'annexe. C'est-à-dire que c'est aussi une croyance dans la fiction. La fiction est plus intéressante que la vie. Si cette femme a des choses à dire à son mari ou au monde, elle va les dire beaucoup mieux dans la fiction que dans la vie réelle, où elle est un peu, elle n'a rien d'extraordinaire, et lui non plus d'ailleurs, Tim Ross. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi la manière dont elle joue avec l'île de Faro. Faro, c'est lié bien sûr à Bergman, donc c'est plus un territoire mental qu'un territoire réel, parce que finalement, des films de Bergman, ce qu'on retient surtout, c'est les visages, c'est les atmosphères, c'est ce qui se passe entre les gens, plutôt que les paysages. Faro, c'est lié à Bergman lui-même. Mais il y a une manière assez gonflée qu'elle a de dire « Je viens faire ma film ici et ça va, je ne suis pas obligée d'avoir de la référence vis-à-vis de toi. Je raconte en fait ce qui est son vrai sujet, la fin d'un amour qui ne veut pas finir. Comment un premier amour laisse des traces très longtemps. Et ce sujet dans le sujet, pour moi, est beaucoup plus intéressant. Ce que je retiens, c'est ça. »
Michel.
Oui, je trouve que c'est son meilleur film. D'abord parce qu'elle investit tout de même cette île, elle la monte, il y a ce côté semi-documentaire, pratiquement. On découvre vraiment la salle de projection de Bergman, le musée, etc. Bon, tout ça m'a...
Tu étais allé, toi, sur cette île?
Non, malheureusement. Non. Malheureusement, mais en tout cas, j'adore Bergman, évidemment.
Mais bien sûr.
Et donc, je trouve que ce film lui donne une inspiration, une respiration aussi, qu'elle n'avait peut-être jamais eue à ce point. J'ai trouvé le couple extrêmement attachant, qui est parallèle aux scènes de la vie conjugale. C'est un couple qui est en train de se défaire, etc. Mais alors, les deux premiers tiers du film, j'ai beaucoup marché. Alors, c'est exactement l'inverse des vases. C'est-à-dire, je trouve, au contraire, contraire que dès le moment où on entre dans l'imaginaire, dans le scénario qu'elle tourne...
Oui, qui est presque du fantastique, d'ailleurs.
Je trouve que Bergman a fait tellement mieux. Alors, autant la scène de la vie conjugale, on pouvait accepter une sorte de parallèle dans ce couple qui va mal, autant les amours adolescentes, je trouve qu'il y avait une chute dans le film et que le dernier tiers n'était vraiment pas au niveau du reste. Ça m'a paru beaucoup plus banal quand on pense aux grands films de Bergman sur les adolescents dans des îles comme l'été avec Monica ou bien Jeu d'été, etc. Donc cela dit, c'est un film très attachant.
Xavier, je voudrais juste rassurer les auditrices et les auditeurs, il ne faut pas avoir un bac Bergman plus
oui,
12
non, pas du tout.
Pour aller voir.
Ah non, bien sûr.
Non, mais que les gens ne croient pas que c'est un jeu de citation hyper fétichiste des lieux où il a posé le pied, la main, le regard. C'est un film qui, moi, me parle beaucoup, mais de manière totalement universelle. Elle a pris Bergman parce qu'elle est terriblement attachée aux cinéastes suédois. C'est un film sur ces cinéastes qui nous accueillent et qui nous recueillent en leur sein. Tous les cinéphiles connaissent ça. On en a plusieurs, totalement différents parfois. Moi, je peux faire le grand pas entre Angelopoulos et Jacques Demy. Un jour, on rentre dans une salle et ces films-là, eh bien, nous enserrent. On rentre dans l'écran, on pénètre, on est chez nous. C'est notre paradis perdu que subitement on retrouve. Et c'est vraiment un film là-dessus. C'est-à-dire, comment est-ce qu'un jour, en tant que cinéaste soi-même, il faut crever l'abcès de ces gens qu'on a tellement aimés, qu'on a tellement animés.
Oui, mais elle s'émancipe sans violence.
Mais
c'est ça qui est joli.
Pas dit qu'elle s'émancipe tout en sacrifiant quand même au pèlerinage, au sens, le plus presque religieux du terme.
Mais c'est un film ça qui est beau dans le film, oui.
Oui. J'arriverai pas à terminer un jour.
Merci, Xavier.
C'est ça qui est très beau, c'est qu'effectivement, elle s'affranchit de ça et que de cet affranchissement naît un film où elle ose quand même mélanger Abba et Bergman. Alors moi, déjà, ça me va très bien. Hein, je suis complètement converti.
Il n'y a pas Mylène. Hein.
Mais il n'y a pas de Mylène, mais bon, c'est pas grave, on en trouvera quelque part. Avec ce petit twist fantastique de distorsion temporelle de la fin qu'on ne racontera pas. Et moi, vraiment, qui ne suis pas un fan absolu de Bergman, mais vraiment pas, ça m'a touché parce que je me suis reconnu dans ce travail-là. Oui, effectivement, il y a des cinéastes qui nous ont aidés à nous construire, à grandir. Elle leur rend hommage et elle se dit qu'un jour, elle-même en tant que cinéaste, il y a un petit pas supplémentaire à franchir qu'elle franchit.
Un grand pas.
Bouleversant, émouvant, riche en émotions et en abats.
Pierrot.
Non, il a fini. Alors,
Mais Xavier, tu en as très 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 bien parlé. C'est magnifique ce que tu as dit. Non, mais c'est vraiment très
allez,
très beau.
Allez, vas-y.
Non, mais je te jure, c'est très
allez,
beau.
Pierre,
j'en suis
ému. Vas-y, Pierre,
tu es sans voix.
Vas-y, Pierre. Vas-y, Pierre.
Non, je suis absolument sans voix parce que c'est absolument ce que j'attendais. C'est vrai que quand tu en parles, je suis...
C'est magnifique. Je suis prêt, les bras en croix.
Oui, non, mais tu es magnifique. Bravo. Là. Le petit problème, évidemment, c'est que... Non, c'est que j'aime bien le pèlerinage en Bergman. Je trouve ça drôle.
En Bergmanie, tu veux dire.
Hein?
En Bergmanie,
voilà. Des autochtones qui refusent de renseigner parce qu'ils en ont marre, qu'on demande... Ça, c'est drôle. Et puis, le verre où il a bu... Enfin, je sais pas, je trouve ça très marrant, très ironique, très fin. Après,
les lunettes de soleil quand même.
Oui, les lunettes
quand
de soleil.
Terrible dans le mercantilisme.
C'est moins. Oui, absolument. Oui. Ça, c'est drôle et c'est très bien. C'est moins bergmanien, pour être tout à fait sincère, que si on est très gentil, antonionien. C'est quand même sur le vide entre les personnages, entre le couple, entre les deux principaux personnages. C'est plus un hommage à Antonioni qu'à Bergman. Petit problème, c'est qu'à la longue, cette femme qui écrit un scénario, puis qui ne sait pas très bien si elle l'écrit ou si elle l'écrit pas. Et puis, on visualise l'histoire d'une femme qui écrit un scénario, qui ne sait pas si elle l'écrit ou si elle l'écrit pas, et qui va peut-être tourner avec un ex qui peut-être c'est très antonionien, c'est mauvais Antonioni quand même, je trouve ça un peu mondain, un peu 16e. C'est du Sagan, c'est du Sagan, mais sans le style, sans la cruauté et sans l'humour de Françoise Sagan.
Mais Xavier en a très bien parlé.
Magnifiquement.
Je savais qu'il y avait des épis dans le bouquet de fleurs.
J'en doutais pas du tout. J'ai été le premier surpris.
De Mia Hansen Love. Il est sorti maintenant, il y a presque un mois. Hein. Donc on arrive après la bataille politique. C'est Président au pluriel, sorti le 30 juin. La comédie politique d'Anne Fontaine avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier, Pascal Le Harbillot. Ça se passe de nos jours, c'est-à-dire sous le règne d'Emmanuel Macron. Nicolas S, si vous préférez, c'est Jean Dujardin, à mon avis, à son meilleur. S'ennuie beaucoup. Il faut dire que passer l'aspirateur, sortir le chihuahua de sa femme chanteuse, c'est donc Doria Tillier, et se confier à son psy Denis Podalydès ne l'occupe pas vraiment assez. D'ailleurs,
personne ne l'a remarqué, mais Podalydès, c'est quand même lui qui jouait Sarkozy dans La Conquête de Xavier Duringer, hein, entre parenthèses. Et là, il est le psy de Sarkozy. Bref, il rêve donc de revenir au pouvoir et il a trouvé l'astuce pour y parvenir. Il va chercher en Corrèze un autre président à la retraite, qui est François H. C'est Grégory Gadebois qui fait son miel, qui trône sur un très beau tracteur, un peu daté, hein. Et surtout, principalement, qui consacre tous ses dimanches à écouter religieusement Le Masque et la Plume. Ça, c'est très important, hein.
Quelqu'un de qualité.
Quelqu'un de qualité. Mais qui ne veut plus entendre parler de politique. Alors, au prétexte que la France est en danger et Marine Le Pen aux portes de l'Élysée, Nicolas propose un deal à François. Les deux ex vont s'unir pour former un front républicain et sauver le pays du, je cite, péril fasciste. Avec en même temps une astuce, hein. Nicolas serait président et François serait premier ministre, hein. Ils sont pas à égalité. Mais c'est compté sans la femme royale de François, une vétérinaire incarnée par Pascal Arbillot. J'avoue avoir beaucoup ri, je crois même pour la première fois ri, en voyant un film d'Anne Fontaine, qui est parfois inspiré, parfois moins, mais là, j'ai vraiment ri. Xavier.
Moi, il m'était arrivé.
On était à la même projection.
On était à la même projection. Donc, je me suis demandé d'ailleurs s'il n'y avait pas une autre copie où Le Masque et la Plume étaient remplacés par une autre émission, tu vois. Mais moi, j'ai parfois ri au film d'Anne Fontaine, mais de manière méchante, hein, de manière effectivement mécréante. Là, je suis pas un fan d'Anne Fontaine, elle le sait. Je m'excuse par avance d'en remettre une couche. J'avais bien aimé Perfect Mothers. Je crois que comme Pierre Murat, mon ex.
C'était bien qu'il était sur une plage en Australie.
Oui, hein. Voilà, avec des mères qui couchaient avec des jeunes garçons. Voilà. Et là, je dois avouer qu'elle m'a conquis, elle m'a acquis à sa cause. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand on a vu le film, les régionales n'étaient pas passées. Donc, le spectre Marine Le Pen contre Macron était évident. Subitement, maintenant que la donne est relativement a changé, hein, les résultats des régionales ne sont pas aussi franches que cela.
En tout cas, du premier tour.
Le film a gagné, bizarrement, une autre aura. Effectivement, d'une fable impossible, ça pourrait devenir une farce probable. En tout cas, ça a une dimension politique que le film n'avait pas tout à fait quand on l'a vu la première fois. Ceci mis à part, c'est une comédie sur la corde, c'est quand même sur la corde raide. C'est pas le théâtre des deux ânes, c'est beaucoup plus intelligent que ça. Elle a très bien étudié les personnages, leur mimique, et là, très bonne idée. C'est-à-dire qu'au moment où le face-à-face pourrait s'essouffler, pourrait devenir un peu systématique, elle fait rentrer les personnages féminins, qui sont formidables, que Dora Tillier en soprane, genre Patricia Petitbon, est absolument magnifique, faussement évanescente comme ça, et elle apporte vraiment quelque chose, comme Pascal Arbillot.
Surtout, elle arrive à conquérir François.
Et voilà, avec, il va y avoir une séduction mélangée
avec sa guitare.
Alors, en termes de mise en scène, c'est du Anne Fontaine. Hein, c'est un peu en pilote automatique. Mais qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est bien écrit, qu'est-ce que c'est perfide là où ça doit l'être, qu'est-ce que c'est touchant là où ça doit l'être. Non, il faut reconnaître une chose, eh bien, c'est une très jolie réussite.
Michel ?
Oui, d'abord, elle réussit dans un genre qui est le plus difficile au monde, c'est la comédie. C'est un genre extraordinairement difficile.
Surtout,
et en plus, sur un sujet extrêmement acrobatique, parce qu'il fallait...
Et extrêmement d'actualité. Croire.
Voilà, qui n'est ni une parodie, ni une imitation. Tous, ils ont une touche, les deux ont une touche des anciens présidents, bien sûr, on reconnaît. Mais à aucun moment on est dans le ventriloquisme, absolument pas. Et moi aussi, je suis très réservé sur son travail. Il y a plusieurs films d'elle qui ne m'ont pas vraiment intéressé. Et je trouve qu'elle a réussi peut-être la meilleure comédie que j'ai vue depuis plusieurs mois. Alors, en particulier, François, qui a un côté mitterrandien avec sa bergerie, la force tranquille, etc., le tracteur, enfin bon, tout cela est très savoureux. Vraiment, je suis comme
ça. Mais qui casse tout quand il entend le nom de Macron, hein. Voilà. Là, il casse tout chez lui.
Il casse tout chez lui quand on entend Macron. Et il se fait rouler, évidemment, par Sarkozy, qui est beaucoup plus malin, parce que Sarkozy s'arrange pour que ça soit lui le candidat, et l'autre vient simplement au support.
Mais est-ce qu'il se fait vraiment rouler? C'est plus roublard que ça.
Oui.
Il est conscient quand même du jeu de manipulation qu'exerce sur lui Nicolas Sarkozy comme sur tout le monde.
Il est conscient, mais il ne peut rien y faire.
Voilà.
Voilà. En tout cas, je recommande j'ai été un peu sévère jusqu'à maintenant. Ça peut paraître paradoxal parce que c'est pas un film qui brille par la mise en scène. Mais en tout cas, la mise en scène est au service d'un très bon scénario et d'excellents acteurs.
Eva.
Je suis plus réservée que vous. Il y a une très grosse promesse qui est donnée au début. Cette idée de deux présidents qui est quasiment qu'une promesse politique puisqu'elle parle de Marine Le Pen. On s'attend à une comédie très incisive.
Et qu'on sait qu'il se haïssait.
Oui, mais elle le met dans un contexte qui pour nous est très actuel. C'est bien une sûr, chose qu'on entend en permanence. Et le côté comédie politique s'évanouit extrêmement vite. Si on compare à L'exercice du pouvoir ou à Alice et le maire, qui sont des films intemporels quasiment, qui peuvent être vus je ne sais pas si ça fera rire en dehors de la France, par exemple, ce film-là. Nous, on a nos repères de Hollande et Sarkozy. Je trouve que cet embryon. Comment arriver à faire un film qui serait pertinent aujourd'hui sur cette rengaine qu'on entend, un front républicain?
Sauf que la menace de l'extrême droite, elle est partout.
Elle est partout, mais le film n'a rien de plus à dire que cet intitulé « Allions-nous contre Marine Le Pen ?» Et ce n'est plus après l'argument du film. Après, c'est comment on fait quand on s'ennuie à passer l'aspirateur et qu'on trouve une idée bancale. Et là, je trouve qu'il y a des petits moments qui vont être drôles, mais que ça se délite assez vite. Que l'énoncé est plus drôle que le film lui-même. Ça ne tient pas la durée.
Pierre.
Moi, je trouve ça assez audacieux, parce qu'elle fait une comédie, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que généralement, quand on peint des hommes politiques en France, on hésite entre la géographie ou la farce, quoi, la farce grossière pour démolir.
C'est plutôt la farce en général.
Voilà. Et là, elle trouve la comédie qui est, et je trouve que tout le début, toute la rencontre, moi, ça me fait beaucoup rire. Il y a presque un petit côté, tu l'as dit, Jérôme, presque Black. Ah, tu l'as pas dit le nom, mais Black Edwards, quand en effet le seul nom de Macron fait péter un plomb, et ça me fait tort de rire parce que, et ça, je la croyais pas. Moi, j'aime bien Anne Fontaine, j'aime bien son cinéma, et je pensais pas qu'elle était capable dans la comédie d'aller aussi audacieusement dans les choses. Je suis un peu d'accord avec toi, Eva, que vers la fin, ça patine un tout petit peu. Mais enfin, on va pas bouger. Oui, non, mais elle sait pas très très bien comment terminer quand même. Mais peu importe.
La place aux femmes.
Oui, non, mais ça c'est très bien.
T'en dis pas plus.
Oui, mais ça c'est très bien. Mais la façon dont elle le fait, je suis pas tout à fait certain que ça soit aussi réussi que le début. Les deux acteurs sont formidables, les dialogues sont très très bien, et vraiment c'est une comédie qu'il faut aller voir.
Enfin, je peux dire juste que quand le film est sorti, moi j'avais rencontré pour mon journal François Hollande, qui trouvait non seulement le film crédible, mais en plus politiquement utile, parce que c'est une comédie aussi populaire et qu'elle tombe au bon moment.
C'est malgré tout une réussite. Voilà.
Président en pluriel, c'est donc Anne Fontaine, désignée coupable, sortie le 14 juillet de Kevin MacDonald, adaptée des carnets de Guantanamo du Mauritanien Mohamedou Ould-Slahi, qui a été détenu au camp de Guantanamo après avoir été livré par son pays, il faut le savoir, aux États-Unis. C'était au lendemain des attentats du 11 septembre. L'homme avait combattu en Afghanistan et était un cousin lointain d'un conseiller spirituel de Ben Laden. Bref, c'était le suspect idéal. Il a passé 14 années dans cette prison, dont il décrit tout, hein, les tabassages, les abus sexuels, les menaces de mort, et tout cela sans inculpation ni jugement, dans un vide juridique total. Et il a retrouvé, je parle du vrai Mohamedou, il a retrouvé la liberté en octobre 2016. Il est incarné dans le film par Tahar Rahim, et c'est Jodie Foster qui joue son avocate, Nancy Hollander. Jodie Foster qui avait mis sa carrière de comédienne entre parenthèses et préféré passer derrière la caméra. Mais ce rôle d'avocate dans ce film de 2h10 l'a fait, si j'ose dire, sortir du bois. Désignée coupable, dites-moi, pas trop longtemps, parce qu'on évoque encore le Hollande. Ce que vous en pensez, Eva?
Ce qui m'intéresse là-dedans, il y a pas mal des fois, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est des films qui démolissent l'Amérique et qui la défendent en même temps. C'est-à-dire que oui, à Guantanamo, on peut faire des horreurs, mais voyez-vous, même l'accusé, au moment du procès, dit « j'ai confiance dans la justice américaine ». C'est l'état de droit, c'est toute la bataille qui est faite, n'est pas pour... Quand il y avait à un moment donné des films contre la peine de mort, dans les films américains prenaient toujours comme argument « on peut condamner un innocent ». Là, on prend un sujet qui est pas sympathique aux gens, un potentiel complice des attentats du 11 septembre. Il y a un petit doute qui existe quand même. Il avait peut-être un petit rôle, disons. Mais c'est un suspense sur le droit. Peu importe à les limites qu'il soit innocent ou coupable, vous ne pouvez pas le condamner sans preuve. Le réalisateur prend tous les codes du cinéma. Par exemple, Jodie Foster, elle est intelligente et sèche. Le procureur, quand il s'en va, il prend un carton comme un cadre qui a été viré de sa société d'entreprise. On est dans tous les schémas d'un cinéma balisé, connu et reconnu hollywoodien. À la fois, c'est efficace parce que c'est la stratégie du cheval de Troie qui permet de raconter l'offense au droit que font les États-Unis depuis 20 ans, et en même temps, il y a cette sorte de banalité de la forme.
Pierre.
Pour faire très vite, c'est réconfortant que ça existe. Voilà. Enfin, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un film américain comme ça.
Très cadré, hein.
Oui, voilà. C'est-à-dire, alors si c'est, enfin, c'est utile, généreux, indispensable. Bon, c'est très mal fait. Enfin, je veux dire, la mise en scène, Kevin McDonald. Enfin, moi, je l'avais bien aimé un film qu'il avait fait qui s'appelait
Roi d'Écosse aussi.
Oui, Roi d'Écosse. Et puis Jeu de pouvoir qui me paraissait un peu dénué de cette préciosité qu'il y a là. Attends, je sais pas, à mon avis, il filme en gros plan des lèvres qui mâchent ou bien une bouteille de bière qui glisse sur le comptoir. Mais pourquoi? Alors, on va me dire, c'est pas grave vu l'importance du sujet. Ben, si, c'est grave. Chaque plan, quand même, quand on est auteur de cinéma, ça compte. Je trouve ça très 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 mal fait, ce qui et on aboutit à la fin lorsque on découvre les tortures dont est victime Tahar Rahim, à une espèce de fouillis, enfin c'est très mal fait, mais c'est très généreux, bien entendu, heureusement que ça existe.
Xavier,
l'histoire effectivement de cet homme est tragique, émouvante, mais
vrai.
Le film ne l'est malheureusement jamais, c'est-à-dire c'est perclus de manichéisme.
Oui.
L'ambiguïté effectivement de parler Eva qu'elle souhaitait presque,
oui, qu'elle souhaitait, mais
n'apparaît
bon.
Pas à l'écran. Un instant, tous les personnages sont quand même très monolithiques dans le rôle qui leur est imposé sur cet échiquier. Alors effectivement, Jodie Foster, elle peut tout jouer et elle le prouve encore. Mais 2h05,
c'est pas son meilleur rôle.
Sans ambiguïté,
elle a, été mieux, elle a déjà défendu.
2h10, sans ambiguïté, sans nuance, avec une espèce comme ça de. Et puis, moi, il y a un côté, et tu l'as très bien souligné, Eva, mais moi, je le reproche au film, c'est-à-dire que c'est encore une fois une forme de propagande inversée, c'est-à-dire oui, nous commettons des erreurs, mais rassurez-vous, la justice.
Mais je le reproche aussi, hein, c'est pas, je non, l'analyse. Mais je le défends
mais
pas.
Quand est-ce qu'on va faire un film qui, enfin, fera le vrai procès d'une justice nihiliste, aveugle aux États-Unis, qui a entraîné dans la mort énormément de personnes et innocentes.
Et de Guantanamo.
Parce et que de Guantanamo. Parce que là, en gros, c'est, non, mais comme il était innocent, rassurez-vous, on l'a vu. Mais combien n'ont pas eu droit à ce statut
Je vous rappelle, c'est 14 ans à Guantanamo.
Oui,
Michel.
Il faut dire aussi que, bon, c'est vrai que c'est dans la grande tradition, sans être un grand film du tout, c'est dans la grande tradition américaine. Moi, je ne critique pas, en particulier, oser attaquer Obama, parce que c'est Obama qui, pendant des tas d'années,
Il
n'a absolument rien fait avec Guantanamo.
Alors qu'il l'avait promis.
Par contre, ce que je trouve complètement raté, c'est les flashs hallucinatoires, les scènes de torture. Ouais. Là, on est plutôt dans Midnight Express, on est dans d'Alan Parker, une outrance absolument déplacée. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est l'atmosphère autour de Guantanamo, c'est-à-dire les duty-free, les salles de torture, les bars, tout ce mélange de la société de consommation et de la société de répression. Je trouve que c'est assez original. Le meilleur, c'est ça. C'est-à-dire, Kevin McDonald a été formé par le documentaire. Il y a ce côté documentaire dans le film qui est finalement le meilleur du film.
Désigné coupable.
Une interprétation de Tahar Rahim que je trouve extraordinaire.
Kevin McDonald, on va être encore plus rapide, pardon, pour le procès de l'herboriste qui est sorti le 30 juin. C'est un an après L'ombre de Staline. Le nouveau film politique de la Polonaise Agnieszka Holland. Et c'est l'histoire vraie, là encore. Sinon, il n'y a plus que des histoires vraies au cinéma. Du Tchèque Jan Mikolacek, joué par Ivan Trojan, un grand connaisseur de plantes qui fut l'un des plus grands guérisseurs de son époque et a soigné gratuitement, sans distinction, les riches et les pauvres, mais aussi les nazis sous l'occupation et les fonctionnaires communistes de l'après-guerre. Il était capable, et on le voit dans le film d'ailleurs plusieurs fois, exactement comme Xavier Le Herpeur, d'établir un diagnostic fiable en observant seulement l'urine de ses malades. Mais son succès lui valut d'être accusé de charlatanisme. D'ailleurs, le titre original du film, c'est Charlatan, de fraude fiscale et quand même en sous-main d'homosexualité, ça se sent. Il a été arrêté par la police et condamné à la prison, une réalisation très classique, voire austère, pour un sujet que je ne connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais pas cet homme qui est mort en 1973. Ce procès de l'herboriste, en quelques mots, qu'en pensez-vous, Pierre ?
Ben, plutôt du bien. Ce qui me surprend, parce que le cinéma de Agnieszka Holland, généralement, je le trouve un peu épais. Et là, je trouve que c'est assez efficace.
L'ombre de Staline était, pour ce qu'il disait, était bien.
Oui. Mais c'est toujours très intéressant sur le fond. Mais enfin, là, je
parlais pas de la forme.
Là, il me semble que c'est. Enfin, moi, j'ai. D'abord, je ne connaissais pas cette anecdote. Enfin, cette histoire. Et puis, je trouve que c'est plutôt bien, parce que ça pose finalement le problème, elle le pose d'ailleurs finalement, c'est de la croyance. Elle dit à un moment donné, c'est parce qu'on y croit qu'on est guéri en quelque sorte. Et elle dit aussi, la question est de savoir si on a le droit d'être immoral au nom d'un talent supposé. Et c'est ça.
Je te précise que comme dans Benedetta, on n'arrive pas tout à fait à savoir quelle est la part de génie ou d'imposture qu'il peut y avoir chez ce guérisseur.
Ça, c'est plutôt bien, sauf que Benedetta, c'est un navet, et là, c'est plutôt un
mais
film intéressant.
Mais il n'y a pas de Godmichet.
Non, mais je trouve ça plutôt intéressant. Et puis les rapports sadomaso entre les deux hommes sont plutôt intéressants.
Xavier.
On a rajouté une couche sur Benedetta, je me vengerai. Habituellement, le cinéma...
Pierre, tu vas avoir du mal en sortant.
Il l'est encore. Hein, c'est un cinéma épais, c'est un cinéma manichéen, avec des très méchants nazis. Des très méchants staliniens. Enfin, je veux dire, il y a... Voilà.
Épais, je trouve ça méchant.
C'est méchant, le stalinien, les staliniens.
Non, mais
pourquoi les nazis auraient le droit d'être méchants et les staliniens n'ont pas le droit d'être méchants?
Le droit, il l'avait pris.
Excuse-moi t'avoir réveillé en sursaut, j'ai pas du tout dit ça. Michel, rendors-toi tranquillement. Pour une fois, elle a un personnage central, à l'opposé, par exemple, de l'ombre de Staline, qui était une vraie victime absolue, sacrificielle, qui se prenait tous les coups. Là, on a un personnage ambigu qui va sacrifier, mais plutôt son amant, effectivement. Ouais. Et subitement, la noirceur, l'ambiguïté, charlatan, pas charlatan, opportuniste, pas opportuniste, donne une épaisseur, un contraste à l'intérieur du film que je trouve assez intéressant, et ça se clôt sur une scène absolument bouleversante.
Alors, ah oui.
Le titre est très mal trouvé parce qu'on a l'impression que c'est un film de prétoire, ça n'occupe qu'une petite partie.
Toute petite.
Toute petite.
L'essentiel, ce sont les consultations.
C'est les consultations, c'est la reconstitution de cette époque, on dirait un peu.
Si vous permettez, je trouve que le choix de ce comédien, Ivan Troyan, est formidable parce que il est lui-même, il est un peu métallique.
Il garde son opacité.
Mais il garde son mystère, son secret.
Et donc, subitement, pour une fois qu'elle a un personnage qu'elle ne peut pas complètement mettre du côté des super gentils, ça donne une intensité à son cinéma qu'on n'a pas toujours trouvé.
Michel ?
Oui, non, j'ai peu de choses à ajouter parce que Pierre et Xavier ont très bien défini les qualités du film.
Oh, mais
c'est vrai qu'Agnieszka Holland...
Excellemment.
Agnieszka Holland porte le poids du communisme depuis toujours. Et c'est vrai que le précédent, c'est sur la famine en Ukraine, par Staline dans les années 30. Et c'est pour la première fois, je trouve, qu'il y a une vraie complexité. Donc c'est pour ça que je ne vais pas...
Parce qu'il y a aussi une vraie ambiguïté.
Mais oui, l'ambiguïté de ce personnage. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est clair sur le régime communiste qui succède aux nazis, mais... Le personnage principal lui-même est très ambigu et c'est ça qui rend toute la richesse du film. Et c'est du bon travail, c'est pas un grand film, mais c'est vraiment un film très passionnant.
Et encore une fois, on ne le connaissait pas, Eva.
Alors, j'emploierai pas l'adjectif épais, je dirais que c'est plutôt, il y a une certaine lourdeur dans le cinéma d'Agnieszka Holland, par exemple, nous expliquer les ressorts psychologiques du personnage
même
par les flashbacks.
Ne vous adoucit pas.
Jeune, il a, au lieu de noyer des chatons, il les fracasse contre une pierre pour nous montrer qu'il a une part violente en lui. Voilà, bon, schlack, ces allers-retours, c'est pas très léger. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le personnage qu'elle monte, l'histoire de l'Ocroyance, moi, je pense que c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment, comme disait Xavier, qui est vraiment excellent aujourd'hui, il faut le dire, hein, parce que je dis comme disait Xavier.
Il est formidable.
Ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on peut avoir du talent et être un salaud? Voilà, il a été initié.
C'est à moi que tu penses quand tu dis ça.
C'est toi qui as dit ça, dans les questionnements moraux. Non, c'est Pierre qui avait dit ça, pardon. Mon Pierrot, tu es parfait. Qui est encore gentissime.
Beaucoup moins.
Pourquoi salaud? Il n'y a aucun moment où on se demande s'il est...
Il n'a aucune générosité de cœur. La personne qui l'initie, qui avait elle un don aussi, dit, tu veux de cette vie, on
la vieille dame, là.
La vieille dame, elle le faisait gratuitement, lui disant, moi je vais te payer, il vit dans la richesse, dans un pauvre.
La façon dont il sacrifie son amant,
son amant, il y a un type qui le supplie de lui donner des nouvelles de sa fille. Elle va mourir, faut dégager, j'ai passé le temps. Et il dit, je veux guérir, mais comme un accro. Et il est prêt à guérir n'importe qui, que ce soit Martin Bormann, exactement, un tortionnaire nazi. Et cet aspect-là qui est très intéressant, en fait, c'est ça que j'ai envie de voir plus le cœur du film. Parce que, par exemple, le fait qu'il a soigné Bormann, eh bien, c'est juste évoqué en une phrase. C'est là où c'est intéressant. Un type accro au fait de guérir. Et je trouve qu'en ayant plein de sujets en même temps, celui-là, il passe un peu là. C'est pour moi celui-là le plus intéressant.
Cette scène très forte où on voit toute cette population qui défile, qui attend des heures et des heures pour pouvoir aller montrer son urine.
Oui, mais il réussit au bac de l'urine.
C'est une question de croyance aussi.
Il sauve sa vie avec les nazis, il passe le bac du flacon d'urine et il reconnaît les flacons d'urine. Si avec ça, ça ne vous prouve pas qu'il a un don.
Le procès de l'herboriste, c'est donc le nouveau film d'Agnieszka Holland. Le temps est venu, en ce 25 juillet, de conseiller à nos auditrices et auditeurs qui vont aussi l'été dans les salles de cinéma de bonnes choses. Et on va commencer avec Eva.
Je vais parler vite pour dire beaucoup de choses. Si vous voyez le Carax, il y a un livre qui est sorti que je trouve intéressant, La petite géographie réinventée de Léos Carax par Jérôme Desté. C'est une sorte de déambulation poétique dans les lieux de Carax, sous l'ombre de Reverdy, et je trouve que c'est vraiment intéressant. Je voudrais vous signaler qu'il y a à l'exposition, c'est gratuit, à la BNF, l'exposition sur le travail d'Amos Gitai, qui a donné toutes ses archives sur Rabin. Et le 28 septembre, là aussi c'est gratuit, il faut juste réserver en ligne, il y aura tous les films que Gitai a fait sur 20 ans autour d'Yitzhak Rabin. Je voudrais vous dire aussi qu'il y a la ressortie du film La fille à la valise de Zorlini, qui est formidable, et je me suis renseignée, il tourne tout l'été avec le Claudia Cardinale jeune et Perrin encore plus jeune. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle, elle est déjà marquée alors qu'elle doit avoir 20 ans, parce qu'elle est d'une condition sociale, je dirais, prolétaire, et lui est un bourgeois. Et il y a une sorte de cruauté douce dans un noir et blanc magnifique. C'est un très beau film.
Je vous rassure, tous ces conseils d'Eva seront sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Le conseil de Michel.
Alors moi, je voudrais parler d'un livre, parce qu'on ne parle pas assez, je trouve. Il y a une grande littérature critique en France sur le cinéma. C'est un livre collectif qui s'appelle Le Musical Hollywoodien, qui est dirigé par N.T. Bean et José Moore, aux Impressions Nouvelles. Alors, évidemment, le Carax nous y fait penser, bien sûr. Le musical, c'est un genre magnifique, et le film montre très bien le passage entre le réel quotidien, qu'il peut y avoir dans Singing in the Rain, par exemple, et puis l'imaginaire fantasmé à la Minelli. Il y a des textes sur Fred Astaire, sur Busby Berkeley, sur les rapports entre Broadway et Hollywood, les westerns musicaux, un entretien inédit avec Ginger Rogers, donc le musical hollywoodien, donc chez les Impressions Nouvelles.
Ben moi, je vais vous conseiller un film, hein, puisque vous parlez que de livres. C'est donc sorti le 7 juillet, c'est Mophi, du Sud-Africain Oliver Hermanus. Je ne sais pas si vous l'avez vu, les uns ou les autres. Ça se passe en 81, dans un pays, vous savez, à cette époque-là, où sévit l'apartheid. Et Nicolas, un garçon de 16 ans, fait son service militaire en Angola pour y combattre les communistes et, évidemment, le danger noir pour le pouvoir sud-africain. Il combat aussi ceux qui le soupçonnent d'être homosexuel. Mophi, ça veut dire tapette en afrikaner. C'est dans une atmosphère... Au début, vraiment à la full metal jacket, tiré d'un récit, une fois de plus, autobiographique. Est-ce qu'il y a un film qui ne soit pas tiré d'événements réels? Je vous le demande. C'est Mophi et c'est sorti le 7 juillet. Le conseil de Xavier.
Alors, comme Eva Bétan, même en parlant très vite, a raflé tous les conseils de tout le monde, j'avais également le livre sur Léo Carax par Jérôme Desté. J'avais également un conseil. Alors, moi, c'est une plateforme, pardon, mais le film ne sortira pas ailleurs. Et il est magnifique. On avait vu avec Michel à Berlin il y a 2 ans. C'est First Cow, qui est le nouveau film de Kelly Richard et qui est une sorte de festin de Babette dans l'ouest sauvage du 19e siècle où deux hommes très amis, volent du lait pour pouvoir faire des gâteaux et vont apporter à la fois du danger et de l'harmonie dans le petit village.
C'est un film qui prend son temps, mais qui est fort.
Hein. Ah ouais, mais en même temps, qui a un pouvoir humaniste, de tendresse, de beauté, d'ironie aussi. Franchement, c'est dommage de ne le voir que sur petit écran, mais merci à Mobi de nous permettre de le découvrir.
Enfin, tu en as très très bien parlé, là.
Magnifique. Assez, mais je trouve que je suis abasourdi. Pas surpris, mais abasourdi.
Tu peux avoir une nomination pour ton talent.
Pierre. Alors moi, je conseille un film qui s'appelle Onoda, 10 000 nuits dans la jungle de Arthur Harari, qui a fait l'ouverture d'un certain regard et qui est sorti là le 21 juillet. C'est l'histoire de ce soldat japonais qui n'a pas voulu se rendre et qui a émergé des Philippines en 74 seulement après 10 000 nuits. Voilà. Arthur Harari, c'est son deuxième long métrage, je crois, et c'est superbe.
Non, mais c'est un chef-d'œuvre, c'est un des plus grands films français de cette année.
C'est simple. Vous allez voir le film de Léo Carax et après le reste, vous allez voir tout le reste ou pas. C'est pas grave, mais vous allez voir Onoda d'Arthur Harari, qui est absolument magnifique.
Extraordinaire.
C'est extraordinaire.
Révélation pour moi de cette année.
Et ça s'est sorti le 21 juillet.
Très bien, merci pour ces conseils que vous retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Eva Bétan, Michel Simon, l'extraordinaire Xavier Le Herpeur, et le magnifique Pierre Murat pour cette émission qui était comme chaque semaine, présenté par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lysiane Selam, avec à la technique au théâtre de l'Alliance française. Ce soir, il y avait, je les remercie, Julie Garot, Philippe Thibault. La réalisation était signée Xavier Pestugia en Bermuda. Dans une semaine, on parlera de livres. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.